Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes de nouveau ensemble pour notre émission « Je suis venu vous lire » sur Jet FM. Alors aujourd'hui, nous souhaitions vous proposer un méli-mélo de textes et de musique déjà diffusés lors de nos précédentes émissions. Un mélange d'univers, de nuit, de voyages, de rencontres. Un patchwork de textes et de musique rien que pour vous.
Pour cette émission, j'ai choisi de vous parler de la nuit. Qu'elle fasse peur ou qu'elle porte conseil, la nuit nous enveloppe chaque soir dans sa vaste immensité. La nuit, c'est la preuve que le jour ne suffit pas. Ce n'est que quand il fait nuit que les étoiles brillent. Et puis, même la nuit la plus sombre a toujours une fin lumineuse. Alors, installez-vous confortablement. La nuit promet d'être belle. Il regarde sa montre. C'est l'heure. Il prend sa veste au porte-manteau. Juste un dernier coup d'œil au miroir, un petit coup de peigne ne serait pas superflu. Ou un de ces quatre peut-être aller chez le coiffeur. Il prend sa petite valise et il sort. Referme délicatement la porte derrière lui. C'est qu'il est très très méticuleux. Sa valise est légère, extrêmement légère. Elle est un peu défraîchie d'avoir beaucoup servi. Les cornières un peu usées et écaillées par endroits laissent apparaître le carton gris sous le faux cuir. Il sort. C'est une ville normale, ni grande, ni petite, qu'il connaît bien. Une ville moyenne, de province, ni gaie, ni triste. Laval ou Romans ou Pithiviers ou Lodève, oh, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est l'heure exacte. L'instant exact. Arrivé au milieu de la ville, il pose sa valise par terre, à plat. Il regarde l'agitation quotidienne autour de lui, les gens qui reviennent des courses, les enfants qui jouent, les autobus, les pigeons. Un dernier regard à sa montre, ça y est, il est temps. Il ouvre sa valise. Et aussitôt, une vapeur obscure s'en échappe. Un nuage immatériel, de plus en plus foncé, de plus en plus profond. Tout le contenu de la valise se répand, envahit la ville, efface les derniers rayons du jour. Les voitures allument leurs lanternes, les fenêtres s'éclairent, on presse les enfants de rentrer. C'est la nuit, la belle nuit, qui vient prendre possession. Les nuages perdent leur joue rose, tous les chats deviennent gris, et au loin, on entend le flonflon d'un bal qui s'accorde. Alors, il referme sa valise, rentre chez lui, en sifflotant, heureux, content. Il a bien fait son boulot, comme ses collègues à Cavaillon, à Maubeuge ou à Roanne. La confrérie des faiseurs de nuit. Tous gens très discrets, très précis. Des travailleurs de l'ombre, pense-t-il en souriant. Rentre chez lui, il éclaire le couloir et la cuisine. Met de l'eau à chauffer pour une infusion, puis s'installe avec un bon livre dans son fauteuil jusqu'au matin. Ce texte a été écrit par Bernard Sultan. Bernard Sultan, c'est un homme de théâtre qui est auteur, comédien et metteur en scène. Et Bernard Sultan anime aujourd'hui des projets pluridisciplinaires dans le cadre de résidences artistiques.
Le voyage, pour moi, disait Roland Dorgelès, qui était journaliste et écrivain, ce n'est pas arriver, c'est partir. C'est l'imprévu de la prochaine escale. C'est le désir jamais comblé de connaître sans cesse autre chose. C'est demain, éternellement demain. Dans les steppes d'Asie centrale, au Tibet ou dans les forêts françaises ou à Paris, Sylvain Tesson marche, chevauche, escalade, bivouaque, soit dans un arbre ou sous un pont, construit des cabanes. cet amoureux des reliefs en appelle à un nouveau nomadisme, à un vagabondage joyeux. Dans son livre « Petit traité sur l'immensité du monde », il nous invite à partager une philosophie de l'errance. Voici un extrait de ce très beau livre. La marche à pied transforme l'errant, mais moins que le voyage à cheval. Le voyageur à pied décide de tout, de ses actes comme de ses objectifs. Il est maître à bord de son voyage. Il pilote une troïka composée de son corps, de son âme et de son esprit. Sa volonté est le fouet de cet attelage. Le chemin se plie à ce qu'il décide. La fierté du bon marcheur est de ne pas trop laisser les événements décider de sa course. Il aime à les faire plier au fur et à mesure qu'ils se présentent. Mais pour peu qu'il se constitue chef d'une caravane de chevaux, la distribution des rôles changera. Subitement, il sera appelé à se soumettre. Il deviendra le pion d'une autre volonté. Il devra s'accorder à un rythme nouveau. Nous parlons ici du caravanier des temps modernes, pas de celui qui, sur les chemins de la soie, menait des cohortes d'animaux, dont beaucoup mouraient, épuisés par les cadences infernales du trafic de damasquins et d'argenterie. Au cours de chevauchées récentes, au Turkestan, en Mongolie, j'ai compris que c'est la bête qui commandait. On imagine la menée, elle imprime le tempo. Elle bat la mesure du sabot sur le sol et la cadence des journées de voyage. Dans la colonne, hommes et bêtes ont chacun leur place. Mais, pour tous, il n'y a qu'un seul rythme. Lent, régulier, inaltérable, le rythme nomade. Mener son cheval dans les immensités ne se réduit pas à donner de temps à autre un coup de bride à l'encolure ou un coup de talon au ventre. La chevauchée est un mode de vie. Elle demande de savoir trouver l'alpage au terme de l'étape, de détecter le clou qui joue dans la ferrure, de lire dans le crottin les signes avant-coureurs de la maladie, de guetter l'irritation sur le cuir avant que ne se déclenche la gonfle, de repérer le bon alpage qui n'est pas forcément le plus vert, d'abreuver son cheval avant la soif, de servir la ration de l'étalon avant celle des ongres, des ânes ou des mulets. Ce sont les devoirs que le cavalier doit rendre à sa monture afin que l'harmonie règne et que se maintienne le fragile équilibre. L'entente entre les bêtes est une condition nécessaire mais pas suffisante à la prospérité d'une caravane. La caravane, c'est la paix entre les bêtes, entre les hommes, entre les hommes et les bêtes, mais surtout entre les hommes. Le voyage à cheval initie le cavalier à une nouvelle lecture du monde. Il l'aide à se fondre dans l'environnement. L'homme sur un cheval avance sans bruit, débarrassé de ses effluves carnivores. Chevaucher aiguise les sens, renforce l'acuité de l'observation. Le cavalier dispose des émotions que manifeste sa monture. Le point de fusion est atteint quand l'homme et sa bête réagissent en même temps, débusquent la bonne pâture ensemble, esquivent le danger ou l'embûche d'un même geste sans concertation. C'est l'entente ultime, complicité qui permet à chacun de prévenir les humeurs de l'autre. Le cheval devient miroir des émotions du cavalier. I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse. No one for to give you no pain. Entre un jardin et un désert, ce n'est pas l'eau, c'est l'homme, disait un Touareg. Voici un texte de Marie-France Gaucher. Un voyage du nord au sud, de l'est à l'ouest. Au sud, j'ai vu vers le sud des jardins plantés de cris, des jardins rouges où des bombes ouvrent de grands bassins, où flottent des poissons perdus, des regards aussi écarquillés qu'une fleur au jardin des supplices, corps coquelicot, butiné par des essaims d'abeilles, migrant d'un bout à l'autre de l'Afrique. Mais ne m'attends pas là. À l'est, j'ai vu vers l'est des jardins plantés de silence. Des hommes y forcent d'étranges fleurs femelles qui poussent sans soleil dans des cages barbelées de bleu, d'ocre ou de noir. Elles jaillissent craintives de la boue des ruelles, de cette poussière qui habille les ruines ou dans la violence, éblouie d'un stade, jardin mâle d'Afghanistan. Mais ne m'attends pas là. À l'ouest, j'ai vu vers l'ouest des jardins plantés d'opulence, beaux jusqu'à la nausée. Il y pousse des monstres, des fleurs toxicomanes, perfusées à l'enfance, aussi seules que des bêtes de concours, et si sottes, si tristes. Des fleurs qui ne savent plus qu'elles sont des fleurs, et qui revendiquent encore, malgré tout, leur exclusivité avec le ciel. Des fleurs qui parlent si fort qu'elles n'entendent plus rien du jardin. Mais ne m'attends pas là. Au nord, j'ai vu vers le nord des jardins plantés d'anges. Jardins blancs, si lents qu'il faut des millénaires aux fleurs pour dire leur parfum. Il y neige des âmes, des sagesses froides de temps, des résonances d'univers à naître. Et tout ça tombe comme une bonne nouvelle dans l'esprit des bêtes du pôle. Mais ne m'attends pas là. Ici, j'ai vu ici des jardins plantés d'indigence, royaumes moribonds en voie d'évanouissement, jardins de gueux où ricanent l'ortie, le riz, la menthe et ce blé toujours vert. Il pleut sur ces jardins des averses de sueur, un jus aussi acide que le champ de l'oseille. Mains d'ouvriers, mains jardinières à planter. Modestes, ces fleurs qui nourrissent le monde. Là-bas, et puis, on me dit que bientôt du désert surgira la guerre, paysagiste du chaos. Je sais son goût pour les plantes qui tuent, pour les folies dressées entre rouille et cailloux. Elle va semer ses graines dans toutes les poitrines. Là-bas, bientôt des gazons d'hommes morts, des parterres d'enfants plantés trop serrés pour survivre, la plainte haut perchée sur sa tige d'amour. Des femmes, au visage de tournesol, le cœur comme un derviche tournoyant. Beau jardin des misères, jamais laissé en friche, où pleuvront des oranges peut-être. Des agents jardiniers trop aveugles pour ne faucher que la vénéneuse plante, celle qui rampe, voluptueuse, dans l'esprit tourbeux de quelques dictateurs et d'une brassée d'hommes amateurs de fleurs mortes. Mais ne m'attends pas là.
C'est une chanson pour les enfants qui naissent et qui vivent entre l'acier et le bitume, entre le béton et l'asphalte, et qui ne sauront peut-être jamais que la terre était un jardin. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il brillait au soleil comme un fruit défendu. Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer, ni rien de déjà vu ou déjà entendu. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin, une maison, des arbres, avec un lit de mousse pour y faire l'amour, et un petit ruisseau roulant sans une vague venait le rafraîchir et poursuivait son cours. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin grand comme une vallée. On pouvait s'y nourrir à toutes les saisons. Sur la terre brûlante ou sur l'herbe gelée. Et découvrir des fleurs qui n'avaient pas de nom. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il était assez grand pour des milliers d'enfants. Il était habité jadis par nos grands-pères, le tenaient eux-mêmes de leurs grands-parents. La la la, la la la, la la la. Où est-il ce jardin où nous aurions pu naître? Où nous aurions pu vivre insouciants et nus? Cette maison, toutes portes ouvertes, que je cherche encore et que je ne trouve plus. La la la, la la la, la la la, la la.
Alors je pense à ce jardin de l'homme qui porte un nom d'arbre. Ses racines ont ligoté mes pas, mon obsession d'errance, ces cruautés d'horloge qui précipitent les chutes. Son feuillage apaise la soif. Là, des roses ouvrent leurs arènes où bat le pouls de notre amour. Elles tanguent, pourpre jusqu'au soir, et leur langue aussi frivole qu'un parfum est la seule que je veuille apprendre. Là est mon jardin, ce jardin sans chagrin, loin des jardins du monde. C'est là que je t'espère, c'est là que je t'attends.
La 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 Je connais un pays, on dirait un jardin. Je peux y vivre nu, sans avoir jamais froid. Quand je ferme les yeux, j'y trouve sous mes doigts tous les chemins. J'ai le fond de tes yeux pour y chercher de l'or, la couleur de ta peau pour lire les saisons, le creux de ton épaule pour ligne d'horizon, et tout autour de moi tes bras font le décor au pays de ton corps, au pays de ton corps, au pays de ton corps. La la la. J'y ai vu des prodiges et de plus grands mystères que l'été en décembre ou que la neige en mai. À ce qu'il me semble, plus je le connais, plus je m'y perds. Et s'il mesure à peine 1m80, j'y fais plus de chemin avec un seul baiser que n'en font dans le ciel les hommes et leurs fusées. C'est un pays où l'on voyage avec les mains. Le pays de ton corps, le pays de ton corps, le pays de ton corps. La la la.
Alors aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, j'ai un invité. Je suis en compagnie de Frédéric Magnien. Frédéric Magnien est plasticien, auteur, comédien. Frédéric, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour ce nouveau rendez-vous sur JTFM. Alors, Frédéric et moi, on avait envie de vous faire partager, ou peut-être de vous faire découvrir, des auteurs, des poètes, des poétesses palestiniennes.
Carte d'identité.
Inscrit. Je suis arabe. Le numéro de ma carte est 50 000. J'ai 8 enfants. Et le 9e viendra après l'été. Te mettras-tu en colère ?
Inscrit. Je suis arabe. Je travaille avec mes camarades de peine dans une carrière. J'ai 8 enfants. Pour eux, j'arrache du roc, la galette de pain, les habits et les cahiers. Et je ne viens pas mendier à ta porte. Je ne me rabaisse pas devant les dalles de ton seuil. Te mettras-tu en colère ? Inscrit. Je suis arabe. Mon nom est commun, je suis patient dans un pays bouillonnant de colère. Mes racines, fixées avant la naissance du temps, avant l'éclosion des siècles, avant les cyprès et les oliviers, avant la croissance végétale. Mon père, de la famille de Larère, et non des seigneurs de Noujoub. Mon grand-père, un paysan. Sans arbre généalogique. Il m'a appris les mouvements du soleil avant la lecture. Ma maison, une hutte de gardiens, faite de roseaux et de branchages. Es-tu satisfait de ma condition ? Mon nom est commun. Inscrit, je suis arabe, cheveux noirs, yeux marrons, signe distinctif, sur la tête une kefia, tenue par une cordelette. Ma paume, rugueuse comme le roc, écorche la main qu'elle empoigne. Mon adresse, je suis d'un village perdu, sans défense. Et tous ces hommes sont au champ et à la carrière. Te mettras-tu en colère ? Inscrit, je suis arabe. Tu m'as spolié des vignes de mes ancêtres et de la terre que je cultivais avec tous mes enfants, et tu ne nous as laissé ainsi qu'à notre descendance que ces cailloux. Votre gouvernement les prendra-t-il aussi, comme on le dit ? Alors inscrit, en tête de la première page. Moi, je ne hais pas mes semblables et je n'agresse personne, mais si jamais on m'affame, je mange la chair de mon spoliateur. Prends garde à ma faim et à ma colère.
T'es qui toi, t'es qui moi?
T'es pas qui, t'es pas quoi?
T'es qui toi, t'es qui moi?
Mais toi, t'es qui, t'es quoi?
N'oublie pas qu'avant toi,
il y en a d'autres que toi.
Et qu'après toi, crois-moi,
il y en aura, il y en aura. T'es qui toi, t'es qui moi?
T'es pas qui, t'es pas quoi?
T'es qui toi, t'es qui moi?
Mais toi, t'es qui, t'es quoi? Il y en aura de la bavure
et décollé au mur.
Et dans ce tas d'ordures,
y aura-t-il toi, y aura-t-il moi?
Y aura-t-il toi, y aura-t-il moi? Y aura-t-il les langues de bois? Des selles en tout cas, y en aura. Du sang qui coule, y en aura pas.
T'es qui toi, t'es qui moi?
T'es pas qui, t'es pas quoi?
T'es qui toi, t'es qui moi?
Mais toi, t'es qui, t'es quoi? Y aura-t-il toi, y aura-t-il moi? Y aura-t-il les langues de bois? Des ciels en tout cas, y en aura. Du sang qui coule, y en aura pas.
Qu'une fois où ça, ça ne finira. Mais tout ça,
c'est entre toi et moi. T'es qui, dis-moi, si t'es pas toi? Si t'es pas moi, dis-moi, t'es qui?
T'es qui toi? T'es qui moi? T'es qui toi?
T'es qui toi, t'es qui moi?
T'es pas qui, t'es pas quoi?
T'es qui toi, t'es qui moi?
Mais toi, t'es qui, t'es quoi? N'oublie pas qu'avant toi,
y en a d'autres que toi.
Et qu'après toi, crois-moi,
y en aura, y en aura. T'es qui toi, mais t'es qui moi? Si t'es pas moi, dis-moi t'es qui. T'es qui, dis-moi si t'es pas toi. Si t'es pas moi, dis-moi t'es qui.
Mais t'es qui, t'es qui, t'es qui toi?
Si t'es pas moi, dis-moi t'es qui. T'es qui, t'es qui, t'es qui. Dis-moi si t'es pas toi.
Qui moi?
Si t'es pas moi, dis-moi t'es qui.
Qui toi? Aouji, 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 aouji,
aouji, aouji, aouji, aouji, aouji, aouji, aouji, aouji, aouji, aouji, aouji.
J'ai eu envie de vous lire des histoires de rencontres. Et comme il faut être au moins deux pour se rencontrer, j'ai fait appel à un invité, Pierre Ostoya. Pierre est comédien. Merci Pierre d'être avec nous et bonjour.
Merci, bonjour.
Et surtout, merci de partager ce moment de rencontre avec nos auditeurs. Alors, des rencontres, il y en a de toutes sortes. Rencontres amoureuses, rencontres insolites, rencontres imaginaires ou rencontres improbables. Quelquefois aussi, mauvaise rencontre. Et puis, des rencontres fugaces. Mais quelle que soit la rencontre, elle laisse toujours une trace, une empreinte. Tout était prévu pour que ça marche entre nous. Il suffisait que nous nous rencontrions. Nous nous sommes rencontrés. C'était le plus difficile à faire, se rencontrer. Mais, depuis, nous ne sommes plus jamais rencontrés par hasard. Nathalie et François se sont rencontrés dans la rue. C'est toujours délicat un homme qui aborde une femme. Elle se demande forcément, mais est-ce qu'il ne passe pas son temps à faire ça? Les hommes disent souvent que c'est la première fois. À les écouter, ils sont soudain frappés par une grâce inédite leur permettant de braver une timidité de toujours. Les femmes répondent d'une manière automatique, elles n'ont pas le temps. Nathalie ne dérogea pas à cette règle. C'était idiot, elle n'avait pas grand-chose à faire et aimait l'idée d'être ainsi accostée. Personne n'osait jamais. Elle s'était plusieurs fois posé la question « Ai-je l'air trop boudeuse ou trop paresseuse ?» Une de ses amies lui avait dit « Mais personne ne t'arrête jamais, car tu as l'allure d'une femme poursuivie par le temps qui passe. »
Quand un homme vient voir une inconnue, c'est pour lui dire de jolies choses. Existe-t-il ce kamikaze masculin qui arrêterait une femme pour asséner « Comment faites-vous pour porter ces chaussures ? Vos orteils sont comme dans un goulag. C'est une honte, vous êtes la Staline de vos pieds. » Qui pourrait dire ça ? Certainement pas François, sagement rangé du côté des compliments. Il tenta de définir la chose la moins définissable qui soit. Le trouble. Pourquoi l'avait-il arrêté, elle ? Il s'agissait surtout de sa démarche. Il avait senti quelque chose de nouveau, de presque enfantin, comme une rhapsodie des rotules. Il émanait d'elle une sorte de naturel émouvant, une grâce dans le mouvement, et il pensa « Elle est exactement le genre de femme avec qui je voudrais partir en week-end à Genève. » Alors, il prit son courage à deux mains, et il aurait même aimé en avoir quatre à cet instant. Surtout que pour lui, c'était vraiment la première fois. Ici et maintenant, sur ce trottoir, ils se rencontraient. Une entrée en matière absolument classique, qui détermine souvent le début des choses qui le sont moins par la suite. Il avait balbutié les premiers mots, et subitement tout était venu d'une manière limpide. Ses paroles avaient été propulsées par cette énergie un peu pathétique, mais si touchante, du désespoir. La situation était tellement inconfortable qu'il s'en sortait avec élégance. Au bout de 30 secondes, il parvint même à la faire sourire. Elle accepta de prendre un café et il comprit qu'elle n'était pas du tout pressée. Il lui demanda ce qu'elle voulait boire. Son choix serait déterminant. Il pensa « Si elle commande un déca, je me lève et je m'en vais. » On n'avait pas le droit de boire un déca à ce genre de rendez-vous. C'est la boisson la moins conviviale qui soit. Un thé, ce n'est guère mieux. À peine rencontré et déjà s'installer une sorte de cocon un peu mou. On sent qu'on va passer des dimanches après-midi à regarder la télévision, ou pire, chez les beaux-parents. Oui, le thé, c'est incontestablement une ambiance de belle famille. Alors quoi ? De l'alcool ? Non. Non, ce n'est pas bien à cette heure-ci. On pourrait avoir peur d'une femme qui se met à boire comme ça d'un coup. Même un verre de vin rouge ne passerait pas. François continuait d'attendre qu'elle choisisse ce qu'elle allait boire, et il poursuivait ainsi son analyse liquide de la première impression féminine. Que restait-il maintenant ? Le Coca-Cola ou tout autre type de soda ? Non, pas possible, cela ne faisait pas du tout femme. Autant demander une paille aussi tant qu'elle y était. Finalement, il se dit qu'un jus, ça serait bien. Oui, un jus, c'est sympathique. C'est convivial et pas trop agressif. On sent la fille douce et équilibrée. Mais quel jus ? Mieux vaut esquiver les grands classiques. Évitons la pomme ou l'orange, trop vu. Il faut être un tout petit peu original, sans être toutefois excentrique. La papaye ou la goyave, ça fait peur. Non, le mieux, c'est de choisir entre deux comme... l'abricot. Voilà, c'est ça. Le jus d'abricot, c'est parfait. Si elle choisit ça, je l'épouse, pensa François. À cet instant précis, Nathalie releva la tête de la carte, comme si elle revenait d'une longue réflexion, la même réflexion que venait de mener l'inconnu face à elle.
Je vais prendre un jus d'abricot, je crois.
Il la regarda comme si elle était une effraction de la réalité.
Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh? Hello,
Malgré tout le savoir acquis, notre ignorance est considérable, car la plus grande partie de l'univers reste enveloppée d'un mystère total. Alors pour conjurer le sort, les hommes inventèrent des mythes, des contes, des histoires sur l'origine du monde. En voici une. Au commencement, il n'y avait rien. Ni haut, ni bas, ni avant, ni après, ni lumière, ni obscurité, ni être, ni non-être, ni pensée, ni projet, rien. Il n'y avait qu'un œil, aveugle, ni mobile, ni immobile dans le rien. Et l'œil s'impatienta. De son impatience naquit le temps, et le temps se mit à passer éternellement. L'œil faillit s'endormir. C'est alors qu'apparurent les bulles de savon, partout, de toutes les tailles, et avec elles, la musique des sphères. L'iridescence éclaira le rien, qui devint un vide éclaboussé de lumière et de son. L'univers irisé était né, d'un coup, dans toute sa complexe et jeune beauté. Un œil, regardant des bulles de savon, avec des têtes et des queues. Très vite, quelques milliardaires et milliardaires de secondes après l'apparition des bulles, l'œil ne sut déjà plus où donner de la tête. L'œil ne sachant pas par quoi commencer, se gavait des formes et des couleurs, ses cônes et ses bâtonnets se tordaient de rire, si bien qu'il se dédoubla lui-même par pliage de rire. Ils furent donc deux yeux rieurs, et leurs larmes de rire fertilisèrent l'espace. À deux, les yeux se mirent à voir des reliefs. Derrière les têtes, ils virent les grenouilles mâles accoucher des têtards par la bouche. Ainsi naquit l'enfance. Avec l'enfance naquirent les oiseaux-mouches et les moucharabiers. Derrière les queues, ils virent des poissons-lunes. Ainsi naquit la nuit. Avec la nuit, naquirent les étoiles de mer et les corps abandonnés. Derrière la nuit, les yeux découvrirent le cosmos. Ils y virent la première constellation, la chèvre-poisson. De la grande chèvre blanche naquit le cachemire. Du cachemire naquirent la chaleur, les fleurs, les plumes et les chenilles urticantes. L'univers à cette époque était un bouillon de culture, grouillant de choses créatures, invraisemblables. Les équilibres les plus saugrenus animaient ce merveilleux cirque des origines. Tout y était vivant. Les corps et les fragments de corps, les couleurs et les fragments de couleurs, les animaux et les fragments d'animaux, la chair et les fragments de chair. Chacun enfantait son voisin, puis se dispersait pour se recombiner aussitôt ailleurs. À cette époque, la fertilité du cosmos était sans limite et la liberté de copulation maximum. C'est bien avant l'apparition de Dieu, hein, avant même la mythologie, avant même les premières manifestations du cerveau. Les mots n'étaient qu'arabesques et musique. Le nombre était décoratif. On disait 1, 2, 3, 4, beaucoup, et ça suffisait. Le bien et le mal étaient des saisons comme les autres. L'univers en était là lorsque les humains arrivèrent. Encore au début, n'arrivait-il que par morceaux indépendants. Un pied, une tête, pancréas, une oreille, un sexe, un cou, un doigt, etc., etc. Ils se glissaient dans les images comme des caméléons se servaient des autres vies comme de parures de carnaval. Et encore, au début, n'y eut-il que des ébauches de féminité. Elles coulaient dans les interstices de l'espace comme des huiles parfumées. L'homme, lui, n'était encore qu'une tête maladroite prise dans les racines de l'arbre de la connaissance. La mort n'existait pas, tout était liberté. Après, on sait ce qui s'est passé. Plus le temps passait, plus leur pesanteur rendait les humains inaptes à la vie intergalactique. Cette pesanteur devint de l'orgueil. L'orgueil leur fit inventer Dieu, à qui ils demandèrent de les créer. Dieu ne se fit pas, effectivement, dire deux fois, puis leur imposa un cerveau adapté à leur gravité. Alors, ils se réfugièrent frileusement sur la terre, comme sur un radeau de la Méduse. Mais ça, c'est après.
Je me rappelle un rêve Il y a quelques nuits de cela, j'avais trouvé un livre et je me disais que c'était épatant d'avoir dégoté cette édition. Mais après, j'ai pensé que si j'étais en train de rêver, je n'allais pas le retrouver le lendemain. Alors me suis-je dit, je vais le mettre en lieu sûr. Et je l'ai mis dans le tiroir de ma bibliothèque. Comme cela, je pourrais le retrouver à mon réveil. Ce livre, c'est « En attendant Bob Jungle » d'Olivier Bourdeau. Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur « Mr. Bob Jungle » de Nina Simone. Leur amour est magique, vertigineux, une fête perpétuelle. Chez eux, il n'y a pas de place, uniquement pour la fantaisie, le plaisir et les amis, mais pas pour autre chose. Celle qui donne le ton, qui mène le bal, c'est la mère. Feu follet imprévisible et extravagant. Ceci est mon histoire, vraie, avec des mensonges à l'endroit, à l'envers, parce que la vie, c'est souvent comme ça. Mon père m'avait dit qu'avant ma naissance, son métier, c'était de chasser les mouches avec un harpon. Il m'avait montré le harpon et une mouche écrasée. J'ai arrêté car c'était très difficile et très mal payé, m'avait-il affirmé, en rangeant son ancien matériel de travail dans un coffret laqué. Maintenant, j'ouvre des garages. Il faut beaucoup travailler, mais c'est très bien payé. À la rentrée des classes, lorsqu'aux premières heures on fait les présentations, j'avais parlé, non sans fierté, de ces métiers, mais je m'étais fait gentiment gourmander et copieusement moquer. La vérité est mal payée, pour une fois qu'elle était drôle comme un mensonge, avais-je déploré. En réalité, mon père était un homme de loi. C'est la loi qui nous fait manger, s'esclaffait-il en bourrant sa pipe. Il n'était ni juge, ni député, ni notaire, ni avocat. Il n'était rien de tout ça. Son activité, c'était grâce à son ami sénateur qu'il pouvait l'exercer. Tenu informé à la source des nouvelles dispositions législatives, il s'était engouffré dans une nouvelle profession créée de toutes pièces par le sénateur. Nouvelles normes, nouveaux métiers. C'est ainsi qu'il devint ouvreur de garage. Pour assurer un parc automobile sécurisé et sain, le sénateur avait décidé d'imposer un contrôle technique à tout le monde. Ainsi, les propriétaires de tacos, de limousines, d'utilitaires et de guimbardes en tout genre devaient passer une visite médicale à leur véhicule pour éviter les accidents. Riche ou pauvre, tout le monde devait s'y plier. Alors forcément, comme c'était obligatoire, mon père facturait cher, très cher. Il facturait l'aller et le retour, visite et contre-visite, et d'après ses éclats de rire, c'était très bien comme ça. « je sauve des vies » riait-il, le nez plongé dans ses relevés bancaires. À cette époque, sauver des vies rapportait beaucoup d'argent. Après avoir ouvert énormément de garages, il les vendut à un concurrent, ce qui fit un soulagement pour maman, qui n'aimait pas trop qu'il sauve des vies, car pour cela il travaillait beaucoup et nous ne le voyons quasiment jamais. « Je travaille tard pour pouvoir m'arrêter tôt », lui répondit-il, ce que j'avais du mal à comprendre. Je ne comprenais pas souvent mon père, je le compris un peu plus au fil des ans, mais pas totalement, et c'était bien ainsi. Il m'avait dit qu'il était né avec, mais j'ai très vite su que l'encoche cendrée légèrement boursouflée à droite de sa lèvre inférieure, qui lui donnait un beau sourire un peu tordu, était due à une pratique assidue de la pipe. Sa coupe de cheveux, avec sa raie au milieu et des vaguelettes de chaque côté, me faisait penser à la coiffure du cavalier prussien qui était sur le tableau dans l'entrée. À part le Prussien et lui, je n'ai jamais vu qui que ce soit coiffé comme ça. Les orbites de ses yeux légèrement creuses et ses yeux bleus légèrement globuleux lui donnaient un regard curieux, profond et roulant. À cette époque, je l'ai toujours vu heureux. D'ailleurs, il répétait souvent « Je suis un imbécile heureux ». Ce à quoi ma mère lui répondait « Non, vous croyons sur parole, Georges, nous vous croyons sur parole ». Tout le temps, il chantonnait. Mal. Parfois, il sifflotait, tout aussi mal. Mais comme tout ce qui a été fait de bon cœur, c'était supportable, eh bien, on aimait ça. Il racontait de belles histoires, et les rares fois où il n'y avait pas d'invité, il venait plier son grand corps tout sec sur mon lit pour m'endormir. « Ce sont des histoires à dormir debout », disait-il avant de quitter ma chambre. Et là encore, on pouvait le croire sur parole. Le dimanche après-midi, pour chasser tous les accès de la semaine, il faisait de la musculation. Face au grand miroir, encadré de dorures et surmonté d'un grand nœud majestueux torse nu et la pipe au bec, il remuait de minuscules haltères en écoutant du jazz. Il appelait ça le gym tonic,
car parfois il s'arrêtait pour boire son gin tonic à grande gorgée et déclarait à ma mère « Vous devriez essayer le sport, Marguerite, je vous assure, c'est drôle et on se sent beaucoup mieux après. » Ce à quoi ma mère lui répondait, qui essayait la langue coincée entre les dents et un œil fermé, de piquer l'olive de son martini avec un parasol miniature. « Vous devriez essayer le jus d'orange, Georges, et je vous assure que vous trouveriez le sport beaucoup moins marrant après. Et soyez gentil, cessez de m'appeler Marguerite. Choisissez-moi un nouveau prénom, sinon je vais me mettre à meugler comme une génisse. » Je n'ai jamais bien compris pourquoi, mais mon père n'appelait jamais ma mère plus de 2 jours de suite par le même prénom.
Knew a man, Bojangles, and he danced for you. In worn-out shoes, silver hair, ragged shirt, baggy pants. He would do the old soft shoe. He could jump so high, jump so high. And then he'd lightly touch down. I met him in a cell in New Orleans. I was down and out. He looked to me to be the very eyes of age. As he spoke right out, talked of life, talked of life, laughed, slapped his leg a step. He said his name was Bojangles, then he danced a lick. Right across the cell, grab his pants, take a better stance, jump up high. That's when he clicked his heels. Then he'd let go that laugh. Lord, 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 he'd let go a laugh. Shake back his clothes all around. That was Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, the man could dance. Told me other times he worked with minstrel shows, traveling throughout the South. Spoke with tears of 15 years how his dog and he, they would travel about. But his dog up and died. The dog just got old and died. After 20 years he's still green. He said I dance now at every chance in honky-tonks.
For my tricks and tips, the most of them I spend behind me. These county bars. You see, son, I drinks a bit.
Then he shook his head. Oh, God, when he shook his head, I could swear I heard someone say, please. That's Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, come back and dance, 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 dance. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr.
to see you dance again. Mr. Bo, Mr. Bo, Mr. Bo Django.
Notre émission touche à sa fin, mais nous ne nous quittons pas sans le coup de cœur de Michel.
Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous faire découvrir Batlick. Batlick est un auteur-compositeur-interprète qui navigue à mi-chemin entre la musique folk et la chanson française. Je vous propose donc de le découvrir avec Les éléphants blancs, tirés de son dernier album L'art de la défaite.
Si à l'avenir tu repasses ici, fais semblant, fais comme si rien s'était produit, fais comme avant. Il est des actes comme les éléphants blancs qui prennent beaucoup sans apporter rien. Il est des actes dont on ne se souvient qu'en les oubliant. Du pire, je prends garde et supporte le tu tout le temps. Ni je ne ris, ni je ne mens. Toi, va là où les fardeaux s'envolent, où tout flotte un peu au-dessus du sol. Va dire la beauté qui nous hante. Va, vas-y, chante.
Je suis venu vous lire, reviendra jeudi prochain. À la technique et à la programmation musicale, Michel Yordanov. À la lecture et à la réalisation, Corinne Tardieu. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur la page Je suis venu vous lire sur www.jet-asso.fr et aussi sur notre page Facebook à Je suis venu vous lire. Bonne écoute sur JetFM.
Si à l'avenir tu repasses ici, fais semblant, fait comme si rien s'était produit. Fais comme avant.
Et voilà, c'est fini. Et voilà, c'est fini. Hein? Eh? C'est fini. Eh oui.